Chapitre 7. Mémoire d'un agent. Dans son grand cabinet du Quai d'Orsay, où, malgré le printemps venu, un feu de bois flambait derrière le pare-étincelle en éventail, le ministre des Affaires étrangères, au jour tombant, devant le ciel de rose, mâchonnait un cigare éteint en tordant sa moustache blanche d'un doigt méditatif et crispé. « Bonne chambre, patron. Pas encore fauché, le ministère ?» L'entrée en coup de vent du jeune Wilkie Marquez resta sans réponse. Pour se donner une contenance, le chef de cabinet prit sur le bureau du ministre les lettres à la signature, les relut avec la plus grande attention, puis, comme interrompu par une idée subite, « Sapristi, c'est le dîner de l'ambassade d'Angleterre ce soir. Moi, je ne pourrai pas. » Valfond, sans se retourner, demanda d'une voix sèche « Pourquoi ça ?»« Parce que je me bats demain. J'ai à chercher des témoins, à me faire le poignet chez Hayat, chez Gastine. » Le ministre, qui marchait de long en large, s'arrêta tout à coup. « N'oublie pas que tu es à mon cabinet. Je suis bien avec la presse, ne me fais pas d'histoire. » Wilkie s'expliqua rapidement. Il avait promis à Florence de rafissoler son mariage. N'ayant pas réussi par la douceur, il passait aux moyens violents. « Avec qui te bats-tu ? » ?»« Mais Claudius, avec qui veux-tu ? C'est lui qui a dérangé toute ma combinaison. Heureusement, il revient de Lyon, son père va mieux. » »« Et tu crois que tu feras marcher ce grand Lyonnais ?» mâchonna Valfond dans son cigare. « Ne t'y trompe pas, la race est combative. Le Rhône de Lyon n'est pas loin de ses glaciers. Froid et brumeux, mais emporté tout de même. Lyon, c'est quasi Genève, cagot, mais brave. Enfin, on verra. » L'huissier de service entr'ouvrit la porte. La personne est là. Qu'elle entre, mais n'allumez pas. Le ministre fit signe à son beau-fils qui disparut par une porte pendant que la personne annoncée entrait par l'autre. Dans la pénombre, s'esquissa la silhouette d'un gros homme en veston de velours, en chapeau mou, la face vultuée, une barbe noire et bourrue. « Eh bien, Mauglas ?» demanda Valfond, immobile dans son angle de nuit. Le policier avança d'un pas. « Conformément à vos ordres, monsieur le ministre, j'ai suivi madame jusqu'à la station de la rue de Bourgogne, où elle a pris une voiture qui l'a conduite par les quais à la pointe du boulevard Saint-Germain. Là, madame est descendue, entrée dans la maison du café qu'habite depuis quelques jours le jeune Raymond Eudeline. C'est chez lui, au quatrième, que madame a passé les 2 heures de son absence. Monsieur le ministre ne m'en a pas demandé plus long. Il y a pourtant là un concierge très amusant, un ancien fonctionnaire de la commune qui a le renseignement facile. « Merci, je sais ce que je voulais savoir, » murmura Valfond. Après quelques mesures de silence, Mauglas reprit, moins doucereux et sur un ton d'humeur. « Vous m'aviez promis de parler pour moi à l'ambassadeur de Russie. Après m'avoir lâché en pleine tribune, avec cette brutalité, c'était justice, il me semble. » « J'ai parlé pour vous, Mauglas, mais l'ambassadeur m'a paru froid. À ses yeux, vous n'avez plus de raison d'être comme indicateur. Il le regrette, vous trouvant très subtil et tenant certains de vos rapports pour des morceaux d'anthologie. » Mauglas froissa son feutre en ses mains velues. « Risquez donc votre peau pour ces chameaux-là. » « C'est payé, dame, » ricana Valfond. « Et d'ailleurs, à présent que rien ne vous empêche de prendre un employé, un jeune rabatteur que vous enverriez aux nouvelles, « voyons, nous avons ce soir un grand dîner diplomatique. Voulez-vous que je parle encore une fois à M. de Karmanov ?»« Vous m'obligerez, monsieur le ministre, » fit Mauglas en allant et saluant d'un coup de tête brusque et vif à se décrocher la nuque. Resté seul dans la cendre grise qui envahissait la pièce, Valfond prit avec son chapeau l'énorme serviette ministérielle encombrant la table et disparut comme Marquez par la porte sous tenture des appartements particuliers. « Mademoiselle est-elle là ? » fit-il en entrant, la tête droite et autoritaire, dans la chambre de sa belle-fille, où des bougies de partout allumées et reflétées faisaient comme un embrasement de chapelle ardente. Accroupie devant un grand mannequin drapé d'une robe de satin clair, une jupière s'activait à fixer une garniture de fleurs. La femme de chambre qui l'éclairait, la lampe haute, une aiguille de fil entre les dents, ne pouvant répondre à la question du ministre, lui montra le cabinet de toilette et quand il lui tourna le dos se dirigeant de ce côté, elle échangea avec l'essayeuse un sourire qui en savait long. Après avoir frappé pour la forme, Valfon insinua sa souple échine de belette à pattes courtes dans une entrebâillure de porte et s'approcha de Florence sur la pointe des pieds. En long peignoir flottant, ses cheveux étalés par lourdes nappes pour sécher la teinture qui les dorait légèrement, l'opulente jeune fille, assise à sa toilette, les bras nus, nacrés et roses, un roman ouvert devant elle, polissait ses ongles en lisant à la lumière d'une applique et dans le miroitement des panneaux de laque claire dont les murs étaient revêtus. « Bonjour, ma Flo. Bonjour, Flo Flo !» bégaya Valfon, la lèvre humide et sénile, la figure noyée dans les beaux cheveux répandus. En même temps, du bras qu'il avait de libre, sa main tremblante et brûlante se hasardait contre la glace dure d'un jeune sein. Tout de suite, sa belle-fille se retourna, le repoussa avec violence. La serviette et le chapeau roulèrent sur le tapis. Le ministre fut ridicule. Dans l'instant de désordre qui suivit, Florence courut fermer la porte et, revenant vers lui, ardente et courroucée, « Tu sais, Valfon, dit-elle avec une brusque altération des traits et de la voix, la première fois que tu recommences, j'envoie chercher les gendarmes. Tu me dégoûtes à la fin. » Le ministre, à genoux, ramassait, toujours très calme, les papiers échappés de sa serviette. Il se releva, souple comme un clown, et de son air de pince sans rire. « Soit, fit-il, appelle les gendarmes. Lorsqu'ils seront là, j'en profiterai pour faire conduire ta mère à Saint-Lazare. Voici quelques lettres d'elle qui m'en fournissent les moyens. Regarde. » C'était bien le papier mauve de Madame Valfon, son écriture enfantine et la sentimentale devise de tous les instants de ma vie, qu'elle empruntait à une amoureuse célèbre. Mais dans ses expansions les plus ardentes, du moins dans ce que nous en connaissons, jamais Mademoiselle de l'Espinasse n'atteignit au lyrisme passionnel dont palpitaient ses feuilles intimes, tombées aux mains du mari et qu'il étalait une à une sur le marbre de la toilette, signalant certains passages à la jeune fille stupéfaite, épouvantée. Que sa mère eût un flirt dans le monde, Florence s'en était doutée. Ses amis, plus libres de langage, aussi plus vives d'esprit qu'elle, en riaient en sa présence, citaient des noms d'amis de son frère, Raymond Odeline, d'autres encore, mais tout cela très vague. Puis, à cette imagination paisible, ce mot de flirt ne représentait guère qu'une galanterie aimable, spirituelle, à 100 lieues de ce que son misérable beau-père essayait de lui suggérer par des fragments de lettres comme ceci. « Pourquoi suis-je si triste, mon ange, quand je sors de tes bras? Pourquoi si triste, après tant de bonheur que tu viens de me donner? Merci à tes 20 ans qui me versent la vie, ô mon bel enfant blond et délicat! Mais quand tu ne m'aimeras plus, qu'il me verse la mort aussi, je veux la boire dans ta bouche. » Et c'était sa mère qui avait écrit tout cela. Valfon, lui, devant les preuves vivantes de ce déshonneur tout récent, ne semblait pas autrement ému. Mais ces preuves, comment se les était-il procurées? La plupart des lettres n'avaient pas d'enveloppe, pas même le pli de l'insertion. Quelques-unes même n'étaient pas finies. On eût dit qu'au dernier moment, un scrupule, une hésitation avait empêché l'envoi. Mais alors, comment le mari était-il en possession de ces armes dangereuses? Une angoisse soudaine s'empara de la pauvre Florence. Elle trembla pour sa mère, qu'elle comprit aux mains de ce méchant homme. Lors de ses beaux yeux pâlis, ses grands cils noirs battaient comme des ailes agonisantes. Valfon en eut pitié, une pitié de peau pour un être trop délicat, trop inoffensif. Il remit les êtres en ordre et tout bas, avec un hérissement de sa moustache grise, « Je suis un vieux loup, ma petite. Il faut te méfier de mes crocs. » Plus bas encore, lui soufflant dans les cheveux l'outrage de l'inceste, « Surtout, fais-toi belle, très belle. Ce nouvel ambassadeur, un ancien vice-roi des Indes, nous amène un troupeau de jeunes misses aux grâces d'antilopes. Il faut qu'elle crève de jalousie. » Il prit la belle chevelure à poignets, se jeta dessus comme un fauve et se sauva avec de longs fils d'or entre les dents. Florence, aussitôt, n'eut qu'une idée, se coiffer rapidement, passer sa robe tant bien que mal, malgré les cris de l'essayeuse, et entrer vite chez sa mère, qu'elle trouva toute prête à monter en voiture, rayonnante et jeune, dans un satin lamé d'argent, 5 rangs de perles énormes autour du cou, et des mitaines au lieu de gants, pour laisser voir les bijoux dont tous ses doigts étaient chargés. Dans la société juive de Bordeaux, les diamants de la belle marquise étaient légendaires. Souvent engagé pour les dettes de jeu de Valfond, depuis qu'il était passé homme d'État et barboteur de fonds secrets, il avait tout retiré de là-bas, ainsi que disait Madame par euphémisme, et le monde-piété de Paris ne connaissait pas ses merveilles. Dès que sa fille entra, le regard de la mère, anxieux, vint au-devant d'elle. « Qu'y a-t-il ? » Cette chose horrible, dont elle ne parlait jamais ou presque jamais entre elles, Madame Valfond l'avait toujours présente, le cœur bouleversé au moindre froncement de sourcils de son enfant. Florence s'approcha, voulut dire ce qui s'était passé, et dès le premier mot s'arrêta gênée. Elles étaient pourtant seules dans la chambre. Par moments, l'énorme Zizi, la vieille mulâtresse de Madame Valfond, traversait la pièce en silence, ramassait un carton, éteignait une bougie, mais la présence de Zizi n'embarrassait pas la jeune fille, tandis qu'elle mourait de honte à l'idée de dire à sa mère « Je sais que tu as un amant ». Il fallait pourtant l'avertir, la mettre en défense. Et brusquement, elle parla, elle se força à parler. « Vite, maman, les lettres que tu reçois, celles que tu es en train d'écrire, où les mets-tu ? » ?»« Là, dans mon meuble anglais. » Madame Valfond, déjà troublée sans savoir pourquoi, montrait un délicieux petit secrétaire d'encoignure avec son aménagement d'étagères, de tiroirs, un de ces meubles comme on n'en fabrique qu'à Londres et qui semblent tous destinés à des cabines de paquebots. Florence demanda encore « Tu as la clé ?»« Sur moi, toujours. » La mère détacha de la bélière de son éventail, on les portait cette année-là le long de la jupe, une clé d'or microscopique qui ne la quittait pas, accrochée tantôt à son bracelet, tantôt à sa montre. Puis elle prit dans le secrétaire un petit buvard en maroquin blanc qu'elle parcourut d'abord très vite, puis feuille à feuille, en pâlissant à mesure. « Ne cherche pas, » dit Florence à voix basse. « Il a tes lettres, je viens de les voir. » « Le misérable, avec une double clé alors ?»« Mais ma pauvre maman, tu fais donc des brouillons ?» La mère balbutia, confuse. « Je ne suis pas française, tu sais bien. Les mots ne me viennent pas comme à vous autres. Pour une lettre que j'envoie, j'en écris toujours 3 ou 4. » Le vrai, c'est que la pauvre femme s'appliquait et ne trouvait rien d'assez noble, d'assez poétique pour répondre aux belles phrases sentimentales de son Raymond. Habituée depuis les lointaines années de Louis le Grand à ranger l'ami de son fils parmi les fortes têtes du lycée, pour elle, il rentrait maintenant dans la géniale série de ce que la portugaise appelait les littéraires, et quand elle lui écrivait, elle s'y reprenait à plusieurs fois, négligeant toujours de faire disparaître les pages qu'elle n'envoyait pas. C'est ainsi que Valfond avait mis la main dessus un jour qu'il fouillait les tiroirs de sa femme, comme cela lui arrivait fréquemment depuis que la chambre s'occupait de la loi Naquet et de la question du divorce. « Pauvre maman !» soupira Florence. La mère secoua la tête. « Oh, moi, il m'a fait tout le mal qu'il pouvait me faire, je ne le crains plus. Mais c'est à toi que je pense, pour toi que j'ai peur. Vois-tu que je ne sois plus là pour te défendre ?» « Si tu n'étais plus là, je n'aurais plus de raison pour y être !» dit la jeune fille en se jetant dans les bras de sa mère. On frappait à la porte vivement. Valfond, sans entrer, commanda de sa voix doucereuse et volontaire « Allons, mesdames, nous dînons en Angleterre ce soir. Ce n'est plus comme à Paris, on arrive à l'heure. » En parlant, il scrutait la physionomie de sa femme. Savait-elle, l'avait-on prévenue ? Dans les jeux d'ombre et de lumière de cette grande pièce, dans l'accoutrement du soir, visage poudré, encapuchonné de dentelle, il était difficile de s'en rendre compte. Mais dehors, quand la voiture ministérielle roula sur les quais, sur le pont de la Concorde où flottait encore du plein jour autour de la piqûre jaune des réverbères, il fut frappé de la belle sérénité des deux femmes, de l'éclat de leurs yeux, aussi limpides que leurs diamants. Bien sûr, Florence n'avait pas eu le temps de parler. Si, maîtresse, qu'une mondaine soit de ses nerfs, un soir où elle dîne en apparat, une explication aussi grave eût certainement laissé des traces. Pourtant, comme le landau traversait la place de la Concorde dans la direction du faubourg Saint-Honoré et de l'ambassade, le ministre disant tout haut « Tiens, Raymond Eudeline !» et se penchant pour regarder en quelle compagnie s'en allait le jeune homme, il lui sembla que la figure de sa femme avait subitement tressailli et pâli. Raymond se promenait devant la grille de la chambre, attendant son protecteur Marc Javel, quand il avait vu venir, en gants paille et chapeau mou, toujours le même malgré son aventure, impudent, velu, la joue épaisse, sa tournure de chanteur de banlieue, Mauglas qui sortait des affaires étrangères et l'abordait avec effronterie. « Mon jeune ami, j'ai bien l'honneur. Comment va-t-on à Morangis et mademoiselle Geneviève ?» Il aurait bien voulu ne pas répondre, honteux d'une si mauvaise compagnie, éprouvant de ce contact une gêne physique. Mais comment faire ? Un homme qui vous interpellait avec cette aisance, dont le regard cynique et méprisant vous dégradait à son niveau. Raymond essaya de tenir le misérable à distance par un salut cérémonieux et l'explication de ce qu'il faisait là. « Je le cognois, votre Marc Javel !» bouffonna Mauglas en allumant sa petite pipe en bois dur. « Voulez-vous que je vous recommande ?» Le jeune homme le remercia, mais depuis le temps qu'il montait la garde, ses jambes n'en pouvaient plus et il préférait remettre le lendemain. « Alors vous êtes ma proie, belle jeunesse !» dit l'autre, qui lisait couramment sur ce front candide un désir immodéré de se débarrasser de lui. Et, glissant un bras sous le sien, « Si fait, si fait, je vous emmène à dîner. Ne me refusez pas, c'est une charité. » Il proféra ces derniers mots avec une émotion de gros homme non joué, à la fois contenue et communicative. Raymond se laissa faire, et, furieux de sa faiblesse, il s'efforçait de se convaincre avec la sottise et la vanité de son jeune âge qu'il cédait à un mouvement de pitié, de générosité. De quel droit aurais-je humilié un malheureux déjà si accablé ? Je ne suis pas son juge, et puis, il a tant de talent, 1 000 francs la feuille à la revue. D'ailleurs, le jour tombé glissait à cette indécision crépusculaire, favorable au compromis de conscience, aux concessions des âmes lâches. Le restaurant des Champs-Élysées, où Mauglas emportait sa proie, comment ce mot « proie » n'avait-il pas heurté l'oreille de Raymond ? A pour annexe, dans la belle saison, un café-concert très en vogue, qui anime d'un bruissement de foule sous les branches, de ses sonorités et de ses girandoles, tout ce côté de l'avenue Gabriel. La saison n'étant pas encore favorable au plein air, on ne voyait du restaurant, enveloppé d'ombre et de silence, que 2 ou 3 cabinets particuliers, hasardant leur lumière louche dans le feuillage. L'empressement des garçons autour du nouveau venu, le sourire de la dame de comptoir, la petite table éclairée des flambeaux à abat-jour d'une partie de whist et servie au fond d'une galerie vitrée et solitaire, jusqu'au pot-au-feu de ménage qu'on ne trouve qu'en province, jusqu'au bon cabillaud fumant comme dans les bars de Londres ou d'Amsterdam, tout indiquait l'habitué, le fin gastronome, orgueil et conscience des vieux cabarets parisiens où l'on sait encore manger. « Ah, la gueule m'a perdu !» disait Mauglas, remplissant les verres d'une lampée de champagne, du vin frais jailli de la grappe et non champanisé. Trop tôt, j'ai su ce qui était bon et je n'ai pas pu m'en passer. Écoute cette histoire, petit. Elle en vaut la peine, c'est la confession d'un agent secret. Raymond le regarda avec épouvante. Le malheureux convenait donc de son infamie, et c'est pour cela qu'il l'avait emmené dîner pour lui faire cette confession. Dans quel but ? Était-ce le remords, le besoin si humain de se soulager en disant tout ? Sans doute, la vaniteuse jeunesse du confesseur trouvait son compte à cette supposition. Mais le singulier pénitent, la serviette au menton, qui faisait sa coulpe d'une lèvre si luisante et d'un si magnifique appétit, comment penser que le remords entra pour quelque chose dans ses épanchements ? Avant de se retirer à Morangis, où Raymond les avait connus, les parents de Mauglas tenaient près de Saint-Lô, en Normandie, une auberge de rouliers au bord du grand chemin. Certains fricots fabriqués par la maman, la soupe aux écrevisses et la tanche à la casserole, faisaient à la maison un renom de grande hôtellerie. et le père Mauglas, maître pâtissier, n'avait pas son pareil pour la galette normande piquée de lardons frits. Dans la belle saison, les bourgeois des environs organisaient des parties de gueulardise chez les Mauglas. Et tous les dimanches, à l'heure du déjeuner, le vieux Denisan, le plus ancien huissier de la ville, arrivait avec son violon et ses deux demoiselles. Jour béni pour le petit Mauglas, ces dimanches qu'il passait à se rouler dans la paille du grenier avec Mesdemoiselles Rose et Pulquérie, puis à écouter les belles musiques de M. Denisan, valse de Brahms, mazurka de Chopin, que le petit retenait, ressassait toute la semaine, qu'il fredonnait du matin au soir jusqu'à en pleurer, en marchant tout seul dans la campagne. C'était pourtant un gars épais et lourd, d'une intelligence précoce, mais d'une indolence que rien ne pouvait secouer. Frileux et gourmand, il restait des heures dans la cuisine, écumant le pot, goûtant le premier bouillon, s'absorbant à regarder le tournebroche qui dévidait sa chaîne parmi la bonne odeur des jus et des grillades. M. Denisan obtint cependant de la mère, qui jusque-là trouvait tout simple de garder son gros mitronné dans ses jupes, qu'on l'enverrait au collège de Saint-Lô, et devant les succès de classe du gamin, qu'il finirait ses études à Paris, pensionnaire dans un grand lycée. Aux vacances, on se retrouvait avec Mademoiselle Rose, poussée en fraîcheur et en santé, mais qui, privée toute jeune de sa mère, sans éducation, sans surveillance, savait à peine lire à 17 ans et se laissait bouler dans la paille comme quand elle en avait 12. La sœur aînée, Mademoiselle Pulquérie, trahie par un goût très vif pour les hussards, en donnait tous les ans une preuve nouvelle à quelque officier du 12e caserné à Saint-Lô. Quand la guerre de 1870 eut essaimé ces jolis hussards à corset de guêpe, un des clercs de M. Denisan prit auprès de la fille la place vacante de l'officier du 12e, mais, moins scrupuleux, se sauva avec elle en emportant la caisse de l'étude. Le fils Mauglas, alors dans Paris, s'engageait au franc-tireur de Chabot-Mollard et menait tout le temps du siège une vie de bohème et de Robinson dans les villas désertes, les grands parcs abandonnés de la banlieue parisienne, pillant les basses-cours, buvant du bon vin volé, savourant cette délicieuse ivresse du danger qui agrandit le paysage et donne au moindre épisode du montant et de l'intérêt. Ah, que l'existence lui pesa, plate et décolorée, lorsque, Paris rendu, les barrières ouvertes, il se retrouva dans la grande cuisine de l'auberge paternelle à écouter le récit que lui faisaient ses vieux de toute la misère subie en son absence. Le camionnage n'allait plus, laissait les chemins et les routes à des passages de troupes débandées, sauterelles d'Algérie qui dévoraient jusqu'aux rideaux des fenêtres. Deux fois, des soldats en subsistance avaient mis le feu à l'auberge. À Saint-Lô, chez les Denisans, c'était plus lamentable encore. Le père, frappé à mort par l'abandon de sa fille aînée, l'étude vendue, achetée à bas prix par la compagnie des huissiers, il restait à la petite Rose le mobilier de sa chambre de jeune fille et quelques rouleaux de pièces d'or au fond d'un tiroir où elle puisait, les yeux fermés, sans jamais rien remettre. « Le guignon, c'est qu'elle est enceinte !» dit la mère Mauglas. « Et qu'elle prétend que c'est de toi !» ajouta le père. Le fils répondit sans s'émouvoir « Ça ne serait pas impossible !» Et comme Rose était jolie fille, qu'elle avait 6 ou 7 000 francs d'argent comptant, il crut faire en l'épousant une opération excellente et vint s'installer avec elle à Montmartre, dans un garni de la rue Lepic. Mauglas fut interrompu à cet endroit de son récit par les éclats d'un orchestre dans l'ombre des massifs voisins. Il croyait d'abord à une répétition du café-concert, mais un garçon le détrompa. « Oh non, monsieur, nous ne répétons pas encore. Ce que vous entendez, c'est la musique de la garde qui joue en face de nous dans les jardins de l'ambassade d'Angleterre. C'est vrai qu'il y a réception ce soir. Il sera même question de moi à ce dîner diplomatique, » se dit Mauglas. Puis, brusquement, à Raymond, « Je reviens à mon histoire. Il me tarde de vous expliquer le comment et le pourquoi de mon entrée à la boutique. » Raymond ne comprenait pas. « Ben oui, la boîte, la boutique, la police, enfin. Nous étions à Paris, au quartier latin, depuis bientôt 2 ans. Rose, en débarquant, m'avait donné 2 ravissants petits jumeaux dont les grands-parents s'étaient d'abord chargés, mais qu'il nous ramenait bientôt avec la nourrice, parce qu'au pays rien n'allait plus et que tout le monde crevait la faim. Cela m'en faisait des bouches à nourrir. Pour m'achever, Pulchérie, la sœur de ma femme, lâchée par son clerc d'huissier, tombée chez nous sans un sou, sans une chemise, mais du vice et de la bêtise à en revendre dans tout le quartier. C'était comme sa sœur, une belle fille, solide, bien chevelée, qui passait toutes ses nuits dans les bastringues où on la connaissait sous le nom de la Normande. Comme elle avait l'aplomb de me prendre pour répondant, il me fallait perpétuellement la réclamer au bureau des mœurs. Puis elle disparut un soir, emportant la garde-robe de ma femme, qui resta près d'un mois sans nippe, n'osant plus sortir en jupon et en camisole. Les 7 000 francs de l'étude étaient loin. Pour nourrir la maison, j'avais vendu ma montre, mes breloques, mes boutons de manchette, puis l'argenterie, mes partitions, le violon du vieux Denisan. Quelques journaux me prenaient de la copie, des biographies de grands musiciens, mais on me payait si peu et j'écrivais si lentement. Ça a été toujours ma faiblesse, ce lambinage à ce que je fais, ce besoin de polir au papier de verre tous les mots d'une phrase parce que je ne les trouve jamais assez aigus, assez luisants. Ajoutez à cela cette manie de brièveté, de concentration qui est assez rare dans la jeunesse, la manie du père Wolf, ce vieil ami de Goethe qui prétendait que toute pensée, toute formule, pour subtile et compliquée qu'elle fût, devait tenir sur l'ongle du pouce ou n'avait pas trouvé son expression. Singulière toquade de chercher des raccourcis, de retrancher des lignes, pour un homme qui ne vit que de sa plume, attend la ligne et en fait vivre des tas d'autres. Une fois, dans une feuille radicale où je débutais, ayant publié un portrait assez féroce du président de la République, j'allais trouver Valfon, alors directeur de la Sûreté à l'intérieur, pour le supplier de ne pas rendre le journal responsable de ma maladresse. Il me rit au nez, me dit que j'étais un naïf, que ces gens-là se moquaient bien de moi. J'avais un grand talent dont je ne savais pas me servir, m'assura-t-il. Et si je voulais être sérieux, sortir de la purée une fois pour toutes, lui-même me procurerait une position facile et lucrative qui me mettrait en état de rendre au gouvernement d'immenses services en le renseignant sur le véritable esprit de l'opinion. « Voyons, réfléchissez, me dit-il, et si mes paroles vous ont convaincu, allez trouver en mon nom M. Le Boucard à la préfecture de police. Il vous indiquera ce que vous aurez à faire. » Je consultai ma femme pour la forme. Elle me répondit « Mon ami, fais comme tu voudras, mais tu n'entends pas grand-chose à ce métier d'écrivain que tu as pris. Tu ne gagnes presque rien et nous sommes 8 ou 10 à manger. Dans ces conditions, il est bien difficile que tu t'en tires. » C'est vrai qu'à la maison, il y avait toujours table mise pour une foule de licheurs, de fricoteurs dont la paresse flattait la mienne. Cela en amenait d'autres et jusqu'en haut de Montmartre, les soupes de la mère Mauglas étaient devenues fameuses. Ne pas lever le couvert d'un repas à l'autre, rester à potiner, les coudes sur la nappe, ma femme, vrai tempérament de roulotte, adorait cette existence de veulerie et de gourmandise que mes appointements d'indicateur, on m'offrait 700 francs par mois, me permettrait de continuer indéfiniment. De prime aspect, le métier ne présentait pas grande difficulté et se résumait en deux mots, écouter, rapporter. Partout où je me trouvais, au café, au cercle, dans les salons, ouvrir l'oreille, saisir au vol les causeries, les renseignements, en faire un bref rapport que le chef contrôlait par le travail de plusieurs de mes collègues en journalisme, vivant, m'assurait Le Boucard, du même métier que moi et ne croyant pas déchoir ni se compromettre en servant honorablement un gouvernement honorable. J'hésitai quelque temps, puis, à une fin de mois trop chargée, Le Boucard me prêta 1 000 francs à rendre quand je voudrais, comme je voudrais. Je fus pris. À la boîte, mes rapports avaient du succès parce qu'ils étaient courts, l'ongle du père Wolf, et que je ne brodais pas. La besogne m'amusait, chargée d'abord de surveiller les congrès socialistes de Gand, de Lugano, l'International de Genève. J'en profitais pour visiter des musées, des pays féeriques que je n'avais entrevus qu'en rêve. Une fois mes notes prises, mon rapport expédié, je travaillais pour mon compte. C'est dans ma chambre d'auberge, au seuil drapé de vignes vierges, Ma fenêtre ouverte sur le bleu cru du lac de Lugano, bordé de villas si blanches que j'écrivis mon premier chapitre de la psychologie de l'orchestre, publié par la revue, et qui me fit connaître tout de suite. Je lis dans vos yeux ce que vous pensez, jeune homme, et le remords. Ma foi, pour commencer, le remords me laissa assez tranquille. Lorsqu'il m'arrivait d'assister en Hollande aux conférences de Karl Marx, de Bakounine et d'une foule d'autres bavards, espagnols, italiens, même français, dont je transcrivais les idées politico-sociales, tout en notant les dessous intimes du congrès, les rivalités, les petitesses, lorsqu'à Gênes, à Milan, les amis de Mazzini, de Garibaldi me parlaient de leurs projets, me livraient l'Italie révolutionnaire et que je transmettais leurs confidences en haut lieu, ma conscience ne s'alarmait guère. Ce n'est qu'après, devant certaines questions individuelles, que le métier se fit dur, par la faute surtout du chef, ce sinistre Le Boucard, qui ne rêvait que plaies et bosses, conspirations et répressions, voulait changer mon rôle d'indicateur en celui de provocateur. Ah, le gredin, si je l'avais suivi, quelle fusillade, quelle canonnade d'un bout de la France à l'autre! Chacun de mes rapports était l'occasion de scènes où il me traitait de jobard, d'imbécile, menaçait de me casser au gage, et je l'aurais volontiers pris au mot si je n'avais traîné derrière moi toute ma smala, plus en désordre que jamais. Ma belle sœur Pulquerie revenue avec son nouvel amant, cette fois un danseur espagnol, atteint du tournis comme les jeunes moutons, et ne pouvant danser que des valses, des pas de derviche. Puis nos petits Besson malades, enlevés tous les deux à quelques heures d'intervalle, ma femme prenant le lit après cette secousse, et y restant 18 mois inerte, comme hébété, ce qui n'empêchait pas la table toujours mise, la ripaille installée pour les amis, même en mon absence. On venait soigner la malade, la distraire. Ma place supprimée, comment entretenir la maison sur ce train de dépenses? J'étais donc obligé d'accepter les rebuffades de Le Boucard. Et pourtant, je finis par me révolter. Est-ce que cet animal-là ne voulait pas que je me porte candidat à la députation du Var, sous prétexte que, dans mes voyages, j'avais su gagner l'estime des cafés républicains de Draguignan? La police ferait les frais de ma candidature, et pendant toute la durée du mandat, mes appointements d'indicateurs seraient doublés. Me voyant obstiné dans mon refus, Le Boucard s'irritait. « Qu'est-ce qui vous gêne ?» me disait-il. « Vous ne seriez pas le seul à la chambre qui est margeré chez nous. » Était-ce vrai? N'usait-il pas là d'un de ces artifices dont ses pareils se servent volontiers pour recruter leur personnel? En tout cas, je m'y refusais absolument, déclarant que je n'aimais que la littérature et que, trouvant à peine le temps de publier un volume tous les 4 ou 5 ans, dans les conditions actuelles, il faudrait que je renonce à écrire si j'acceptais la députation. Le chef, là-dessus, prit une colère abominable et je me serais trouvé dans la rue, sans emploi, si Valfond, aussi impitoyable que Le Boucard, mais redoutant à bon droit tout ce qui tient une plume, ne m'avait offert un poste avantageux pour remplacer celui que je perdais. Le nouveau ministre de la police à Saint-Pétersbourg, le général de Jarine, traversant Paris, lui avait demandé un agent habile et probe, pouvant surveiller les révolutionnaires russes réfugiés chez nous. Il me donna une lettre pour le général que j'allais rejoindre à Genève, où il avait loué tout l'hôtel Beau Séjour. J'y passai 48 heures, occupant 6 grandes pièces au second étage pour moi seul, avec défense de sortir et de parler à n'importe qui. Mais des cigares, du champagne et du cumel à s'en faire éclater. Ce gros de Jarine, sensuel et fin, aux gestes soyeux, aux regards perfides, me remit un paquet de photographies représentant les principales figures du parti révolutionnaire, figures que je devais m'assimiler et tenir à l'œil constamment. Il me détailla avec beaucoup d'intelligence les notes qu'il avait réunies sur la vie, les mœurs, le caractère de ces hommes et de ces femmes, m'indiqua leurs gîtes et leurs repères, me signalant deux des plus farouches de ces nihilistes comme travaillés depuis longtemps et bien prêts de passer au service de la boutique pétersbourgeoise. Il laissait à ma subtilité le soin de boucler l'affaire, de même que je trouverais les moyens de pénétrer parmi eux, de me lier avec quelques-uns sans éveiller aucun soupçon. J'y suis arrivé en effet, et richement payé, 1500 francs par mois, avec les frais de voitures et de timbres, Je peux dire que je n'ai pas volé mon argent, du moins les premières années. J'ai connu tous les chefs de l'émigration, Lavrov, Popov. J'ai eu des invitations pour les soirées de l'hôtel Czartoryski dans l'île Saint-Louis, qu'on soupçonnait un centre nihiliste. Je n'ai jamais rien pu découvrir. J'ai déjeuné 3 mois de suite dans une crèmerie derrière le Panthéon avec Sonia Perovska et Jessa Heffman, pendues toutes deux quelque temps après, à Pétersbourg ou à Moscou, je ne sais plus. Ne pâlissez pas, jeune homme, ce n'est pas moi qui les ai fait arrêter. Je me contentais de signaler leur présence, les endroits qu'elles fréquentaient. Mais pour dénoncer leurs entretiens, leurs projets, il me manquait la connaissance de la langue russe, ou plutôt d'un certain argot à clé dont les réfugiés se servent entre eux. Quand ma femme mourut et que j'installai mes vieux dans le pavillon voisin de celui des Isoards, ma rencontre fortuite avec Sophie Kastanyozov pouvait être dangereuse pour les compatriotes de cette bonne grosse fille qui connaissait toutes leurs résolutions sans partager complètement leurs idées. Je ne sais pourquoi, Sophia m'avait prise en faveur, moi et ma littérature. Je la sentais en confiance, prête à tout me dire. Elle commençait à m'apprendre, censément pour une étude de langue verte comparée, cet argot, sans lequel il est impossible de connaître le parti. Subitement, sans motif ni explication, elle se retira, se renferma, je n'eus plus rien d'elle. Était-ce par jalousie de mes sentiments pour Mademoiselle Geneviève, dont je fus épris quelque temps? Ou bien cette belle et fière personne arriva-t-elle à lui communiquer l'antipathie qu'elle ressentait pour moi? Toujours est-il qu'à la suite d'une visite domiciliaire chez Casta pour chercher un nihiliste qu'elle cachait, on lui persuada que je l'avais dénoncé. Sans être absolument brûlé dans le quartier Saint-Marcel, ce qu'on appelle la Petite Russie, j'y fus à l'œil, comme on dit, filé moi-même bien plus que je ne filais les autres, et mes vieux parents même menacés dans leur repos, je dus leur chercher un autre refuge, loin de Morangis. Sur ces entrefaites, on changea le ministre de la police à Pétersbourg. Le nouveau, Bernoff, un sauvage, venu à Paris, me manda à l'hôtel Bristol et me donna ordre de lui découvrir avant 8 jours une imprimerie clandestine russe fonctionnant à Saint-Ouen. Je cherchais, ne trouvais rien, me fis enlever de la plus brutale façon par le ministre qui, insensible aux délicatesses de la langue française dont j'ornais mes rapports, me traita comme un vrai moujik et m'eut certainement mis à pied sans l'intervention de Déjarine. Aussi, quand le général revint s'installer à Paris avec sa fille, sachant la haine qu'il inspirait aux réfugiés, je me mis complètement à ses ordres. Mais c'était un de ces êtres à la fois fatalistes et sceptiques qui ne croient pas au danger. Mes précautions le faisaient rire. Il continuait à courailler dans tous les bouges alors qu'il avait à Paris et à Londres des ordres formels de l'international à son sujet. Je crus devoir avertir notre ministre des Affaires étrangères. Une bonne gaffe, vous savez avec quelle désinvolture Valfond, menteur et traître, m'a jeté par-dessus bord, prétendant m'avoir chargé de la sûreté du général et me rendant responsable de sa mort. Je n'ai qu'un moyen pour me tirer d'affaire. Ce moyen, vous êtes à même, je crois, de me le procurer. Mais attention, voici du monde. Sortons, je finirai dehors. Un couple venait de s'installer à une table voisine, sous la véranda, préférée ce soir-là au cabinet particulier, d'une chaleur d'étuve. Quand Mauglas, carant effrontément ses larges épaules, passa près des dîneurs, l'homme, en habit et cravate blanche flottante, long, voûté, une tête de levantin cuivrée et féline, chuchota quelques mots à la grande poupée peinte et coiffée de chanvre qui s'éventait en face de lui. « C'est Barnès, député du Vaucluse, » dit Mauglas à voix haute, de façon à être bien entendu. « Il fait semblant de ne pas me connaître, et ce n'est guère propre de sa part, car lorsqu'il a eu sa vilaine affaire du Palais-Royal, le chef m'avait chargé d'une enquête chez tous les boutiquiers de la galerie, et si j'avais tenu à plaire à Le Boucard qui le croyait coupable... » Mais l'enquête fut bonne pour lui, et je n'ai pas pu mentir. « Ah, cet homme que j'ai vu sangloter, m'embrasser les genoux, les promesses qu'il m'a faites, ses serments de reconnaissance, voilà, pas même un coup de chapeau. » Il sourit à la dame de comptoir, alluma sa pipe anglaise à la pince d'argent que le chasseur lui offrait, cependant que Raymond, peu fumeurs, comme ceux de son bateau, s'attaquaient à un terrible havane qui acheva d'embrumer ses idées déjà brouillées par le champagne vert et les confidences qu'il venait d'entendre. Beau métier tout de même, pour un regardeur d'homme, ce métier dont je vous parlais, mon cher Raymond. Mouglas, entraînant son jeune compagnon dans la nuit des Champs-Élysées, frappait le sol violemment du fer de sa canne. Ce que j'en connais d'histoire, ce que j'en ferais sortir de cet asphalte si je voulais. Aussi, je ne vous cache pas qu'en dehors des appointements qui me permettaient la vie large, une table soignée et du loisir pour mon œuvre d'écrivain mosaïste, je regretterais mon emploi s'il fallait y songer tout à fait. C'est pourquoi je vous demande, verriez-vous dans vos connaissances, à l'association ou ailleurs, un camarade besogneux ou seulement assoiffé de bien-être qui consentirait, pour une pièce de 500 à 600 francs par mois, à passer quelques heures parmi les réfugiés russes et à noter, sans interprétation ni broderie, tout ce qu'il entendrait? La responsabilité serait pour moi. Je fais le rapport, je le signe à mon chiffre à la préfecture. Ce que j'évite, c'est de me montrer dans les milieux où je suis brûlé. Malgré son extrême jeunesse et les vapeurs du champagne, Raymond Delisle ne put s'empêcher de songer. Voilà donc où il voulait en venir, voilà ce qu'il vise depuis 2 heures. Et tout haut, la parole assurée, il commença. « Je le regrette, monsieur Mouglas, mais j'ai beau chercher, personne autour de moi ne me semble ni apte, ni même disposé. » Il s'arrêta, se sentit rougir dans l'ombre et se figura qu'on le voyait. Pourquoi rougir? De quelle arrière-pensée subissait-il la gêne brusque? D'où lui venait cette soudaine terreur de Mouglas, l'envie de lui échapper, de fuir bien loin? L'autre, Finot, s'en doutait sûrement et répondit avec le plus grand calme. « Oui, je sais, à première vue, la chose paraît mal commode. Mais en y songeant, un métier sans fatigue, sans responsabilité, qui vous rapporte 600 francs par mois, vous verrez, jeune homme, vous réfléchirez. Vous avez mon adresse ?» Il suivait le trottoir de l'avenue Gabriel. L'alignement en verdurée de ces jardins, dont les hôtels ont tous, ainsi que l'Élysée, leur entrée principale, Faubourg Saint-Honoré. Comme il longeait une grille tapissée de lierre, des voix de femmes soutenues de fredons de guitare vinrent à eux à travers le frisson des branches noires où luisaient les lumières d'une fête mondaine. « L'ambassade d'Angleterre, sans doute, » dit Raymond. Le policier s'arrêta, regarda. « Oh non, l'ambassade est plus haut. Du reste, cette guitare que nous entendons ne ressemble guère à la musique de la garde. » C'était bien l'ambassade d'Angleterre, mais à travers les perrées d'eau de lierre, il ne pouvait apercevoir le perron de l'hôtel Borghese, ses hautes portes-fenêtres larges ouvertes et les rares femmes, admises à l'intimité de cette réunion diplomatique, profilant leurs élégantes silhouettes dans l'enfilade de ces immenses salons, étincelants et presque vides ce soir-là, dont la belle Pauline fit tant de fois les honneurs à son frère et à tous les jolis colonels du Premier Empire. Après un dîner automatique et solennel, que la musique de la garde entrecoupée de valses sentimentales et de pas redoublés, suppléant avantageusement aux mornes causeries officielles, la musique partie, Lady Raswenswood, sa fille et leurs invités passaient dans les salons, les hommes étaient restés seuls à boire et à fumer autour de la table en désordre, où les boîtes de cigares, ouvertes sur des chemins de soie indiennes lamées d'argent, les flacons à liqueur bizarrement taillés se mêlaient aux massifs étriers d'or étalés et luisants sous les 7 branches allumées d'un haut candélabre en bois de santal, à toute cette décoration exotique qui déroutait la banalité du repas officiel offert au ministre des Affaires étrangères et à tout le corps diplomatique par l'ancien vice-roi des Indes, hiérarchiquement devenu depuis quelques semaines ambassadeur d'Angleterre à Paris. Valfond avait approché sa chaise de celle de l'ambassadeur de Russie et, pendant qu'il causait à voix basse, avec la mimique sentencieuse, les airs de tête importants des hauts fonctionnaires, le mâchonnement canaille d'un cigare au coin de sa lèvre faubourienne était la vivante antithèse de la grâce patricienne et de la mince cigarette de son voisin. Plus loin, le nonce, figure aux teintes jaunies d'un ivoire gravé en creux, long corps ascétique serré dans une soutane violette à tout petits boutons au milieu des habits noirs chamarrés de brochettes et de plaques d'argent, écoutait les phrases onctueuses de Marc Javel, exceptionnellement invité à cause de sa nièce Jeannine, amie de Miss Frida Ravenswood depuis son arrivée à Paris. On parlait alors du remplacement probable de notre ambassadeur au Vatican, et Marc Javel s'était dit que si la marine lui échappait, il représenterait volontiers le gouvernement de la République près du Saint-Siège, d'autant plus que, depuis quelques mois, le député radical négligeait visiblement ses francs-maçons et sur bien des points ce jour-là se trouvait en conformité de pensée avec le nonce. Près d'eux, de jeunes attachés se répétaient tout bas, en pouffant, le mot de Madame Valfond, la ministresse, à qui Lord Ravenswood, faisant visiter avant dîner les salons de l'hôtel Borghese, avait dit, en lui montrant une causeuse de satin vert, restée là depuis le Premier Empire, « Si cette causeuse voulait, elle nous en raconterait sur les mœurs de la belle Pauline. » À quoi Madame Valfond, dépourvue de toutes notions historiques et croyant que la belle Pauline était le nom de guerre de Kelketahir, contemporaine de Cora Perl et de Marguerite Bélanger, répondait d'un ton pincé « Les femmes comme moi, monsieur l'ambassadeur, ne s'intéressent pas aux aventures de ces sortes de filles. » Le lord ambassadeur avait eu le bon goût de se taire, mais vous pensez si le mot de la pauvre femme est allé rejoindre dans le répertoire comique de cette jeunesse les provisions de gaieté et de fou rire dont les avaient déjà complaisamment pourvues les épouses légitimes de certains de nos gouvernants. Celle que l'on raillait ainsi ne s'en apercevait guère et n'avait pas le cœur à rire. Assise dans un coin de salon, au milieu de toutes ces femmes de la carrière dont la plupart lui étaient inconnues, figure hautaine et cosmopolite, carte d'échantillon de toute l'aristocratie féminine de l'Europe, aveugle et sourde à ce qui se passait autour d'elle, ses yeux restaient fixés sur la porte par laquelle les hommes allaient entrer, son mari surtout, dont elle attendait un renseignement avec angoisse. La soirée était lourde. Une haleine mouillée et tiède qu'envoyait le jardin courbait la flamme des lustres, et sur le discret chuchotis des éventails, sur le roulement lointain et ininterrompu des voitures, montait une voix limpide venue du fond du salon, une voix de toute jeune fille chantant une ancienne ballade écossaise accompagnée par la guitare. Comme en tout autre moment, Madame Valfond, avec la facile sentimentalité des roucouleuses de son âge, se serait abandonnée au charme de la vieille romance rajeunie par cette grâce printanière. Mais depuis une certaine phrase, entendue à travers la confusion de la table, rien n'existait pour elle que ces quelques mots d'une obscurité douloureuse dont Valfond pouvait seul lui donner l'explication. Enfin, la porte de la salle à manger s'ouvrit à deux battants, et dans le vaste salon blanc et or se répandait un tumulte de rires et de voix d'hommes. Avant que le ministre, qui marchait en tête avec Lord Ravenswood, eût achevé le geste autoritaire et grand seigneur, un grand seigneur de l'ambigu, destiné à impressionner les dames à son entrée, un bras passionné, d'une emprise irrésistible, s'attachait au sien, et de tout près, secouant le maigre petit homme et lui coupant son effet, Madame Valfond demandait à son mari « Ce duel dont Marc Javel parlait pendant le dîner, ce duel pour demain !» L'autre, l'acrobate, souriait pour la galerie, avec des envies de mordre, essayait de calmer sa femme, et tout bas « Voyons, Lolo, tiens-toi, tu as l'air d'une dompteuse !»« Eh bien oui, ton fils se bat demain !»«
Avec qui? Pourquoi ?»«
Claudius Jacquan, tu sais bien pour quel motif !» Elle étouffa un cri de colère. Pour le mariage de sa sœur? Mais Florence n'y songe plus à ce mariage. Et si j'allais lui dire que Wilkie... Allons, Valfond, ce n'est pas sérieux. Ses yeux ardaient dans son visage pâli. Tu vas téléphoner au préfet de police, ce duel n'aura pas lieu. Le ministre eut son mauvais rire. Pardon, ma chère, je n'ai pas les mêmes motifs que vous pour souhaiter que la grande fortune de ces Lyonnais aille à la famille de Lynn. « Faites ce que vous voudrez, je ne m'en mêle pas. » Il profita du trouble où ce nom d'Eudeline l'a jeté pour se dégager et gagner, au bout de la pièce où venaient de passer les autres convives, un beau window tout fleuri d'orchidées, dont le vitrage arrondi laissait voir les illuminations du jardin. Là, une blondine tout en blanc, les bras nus, les cheveux à la grecque, légèrement renversés sur la causeuse verte de la belle Pauline, dans une pose qui montrait des bas à jour sous les rubans moirés de deux petits cothurnes croisés l'un sur l'autre, s'accompagnait d'une guitare et, par ses yeux bleus, sa bouche en fleurs, évoquait un des plus jolis modèles de Madame Vigée Lebrun. Quelques sièges bas, en demi-cercle devant elle, lui faisaient un auditoire adorable de jeunesse, aux robes claires, aux prunelles innocentes. « Je ne vois pas ma nièce, » dit Marc Javel au ministre, dont les regards, rôdés partout, cherchaient aussi plein d'inquiétude. Madame Valfond, debout derrière eux, murmura « Jeannine vient de passer dans le jardin avec Florence. » Elles allaient, serrées l'une contre l'autre, Jeannine, mince et petite, appuyée au bras de son opulente amie, dans la vague clarté des lampions en guirlande, autour des pelouses et des lanternes de couleur, parmi les massifs immobiles. Le vent ne soufflait plus. Dans l'air pesant grondait un lointain roulement d'orage, le premier de l'année. Restés d'abord autour des perrons, puis s'enhardissant peu à peu, les deux amis pénétraient au noir des allées, s'asseyaient sur un banc, au fond, contre la grille. « Tiens, il pleut !» Jeannine Briand avait senti une goutte d'eau sur son bras nu. Florence soupira. « C'est moi qui pleure. Cet enfant m'a bouleversée avec sa voix innocente et ses yeux clairs. Dire que je n'ai jamais eu l'âge de cette candeur, jamais connu cette fraîcheur d'âme. Oh, ne ris pas. Si tu savais comme j'en suis lasse de l'horreur dans laquelle je vis, comme j'en ai honte. Ça dure donc toujours, ma pauvre grande. Toujours. Cet homme est fou et sa folie n'a plus de trêve. Ce soir encore, à ce dîner, tiens, c'est trop ignoble. Il vaut mieux que je me taise. » Un silence se suivit, occupé par la montée sourde de l'orage et le bruit uniforme des voitures sur l'avenue des Champs-Élysées. « À ta place, j'avertirai mon frère, » reprit Jeannine. « Mon frère, comme si tu ne connaissais pas les jeunes d'à présent. Il a besoin de Valfond. Il me tiendrait les mains plus tôt. Non, pour me tirer de là, il n'y avait que le mariage. Le sort ne l'a pas permis, et maintenant, que m'arrivera-t-il? Il viendra à bout de ce qu'il veut, c'est sûr. Il le veut trop. Seulement, je lui garde une surprise à ce misérable. Tu te rappelles notre cour de Mademoiselle Audouy, rue du Bac, derrière le jardin des missions ? Je crois bien que je me le rappelle. Quand ta mère venait nous chercher et qu'elle s'exaltait à la voix de ces jeunes prêtres destinés aux martyrs, qu'on entendait chanter dans leur chapelle. Elle était très romanesque dans ce temps-là, Madame Valfond. Elle l'est toujours. Est-ce qu'on change, ma Jeannine ? Ne suis-je pas restée la grosse innocente demandant très sérieusement à Mademoiselle Audouy, en plein cours d'histoire religieuse, si elle était bien, bien jolie, cette sainte qui, pour faire honte à son vainqueur, ne pas figurer dans le cortège triomphal, se coupa les cheveux, le nez, les oreilles. « Mon Dieu, Florence, tais-toi, tu m'épouvantes !» Des pas, en s'approchant avec précaution, faisaient craquer le sable de l'allée. La causerie des jeunes amis s'interrompit subitement.